chez les patriarches, c'était le cas de Isaac, et aujourd'hui Joseph. Alors je mets ensemble Isaac et Joseph. Isaac nous avait permis d'aborder la question de la filiation. Avec Joseph, nous abordons la question de la fraternité. C'est une question qui est centrale dans les Écritures, absolument centrale dans les Écritures, y compris dans notre foi. Dans notre foi chrétienne, à la messe, nous disons « Je reconnais devant vous, frères et sœurs, la question de la fraternité, c'est quelque chose de structurant dans notre foi. Nous sommes appelés à devenir des frères en Jésus-Christ. » Donc, le thème de la fraternité est porté de façon très profonde par la figure de Joseph. Il s'agit d'une histoire de frères. Comme d'habitude, je commence par la figure de Joseph lui-même, le récit. Alors, je survolerai très très rapidement. Et ceux qui étaient là il y a 2 ans ont déjà suivi un cours sur. Vous retrouverez quelques éléments. Voilà. Donc, ce sera à grands traits que je reprendrai quelques éléments. Et ensuite, bien sûr, ce que le Christ nous apporte et la lecture typologique de la figure de Joseph pour essayer de pénétrer davantage la richesse du mystère du Christ. Tout d'abord, Joseph, le patriarche. Je commence en parcourant la narration, une sorte de résumé de la narration, pour mémoire, parce que c'est très important de voir que cette question de la fraternité n'est pas une question abstraite, mais comme toujours dans la Bible, il s'agit d'un récit. Donc c'est important d'avoir le récit présent à notre esprit. Voilà, vous vous souvenez que Joseph est l'avant-dernier des fils de Jacob, le fils de... allez, je vais vous faire la pédagogie moderne qui veut qu'on soit un peu interactif et qu'on fasse participer les auditeurs. Je vais mettre au travail, comme ça j'entendrai pas de ronflement. Voilà. Qui était la maman de Joseph ? Rachel, ben, tout le monde sait. C'est trop facile, vous savez. C'est pas possible. Voilà. Et qui était l'autre frère, puisqu'ils étaient deux frères ? Benjamin. Ouais. D'accord. Pas rien vous cacher. Voilà. Et de fait, Rachel était celle, la femme parmi les 4 épouses ou plutôt les 4 mères des fils de Jacob. Rachel est celle que Jacob aimait vraiment. Et donc, il a une préférence pour Joseph. Et on verra aussi l'amour qu'il a pour Benjamin. Son père, évidemment, avec cette affection particulière qu'il a pour son fils, lui offre un beau manteau qui va susciter la jalousie des frères. Le thème du manteau est un thème qui est important. Vous me direz, à peu près tous les thèmes dans l'histoire de Joseph sont importants. Voilà. La jalousie des frères, ils voient leur plus jeune frère qu'une super parka qui permet d'aller faire du ski et tout, dernière mode, un prix très élevé. Enfin voilà. Bon, on transpose facilement dans une vie de famille. Voilà. Et Joseph est plus jeune que ses frères. Il n'est pas avec eux à garder les moutons, puisque c'est une famille de pasteurs, comme toujours dans la Bible, hein, on a affaire à des pasteurs. Il est donc davantage dans la maison familiale. Et un matin, il rejoint ses frères, il leur raconte avec naïveté des songes qu'il a eus. Hein, vous vous souvenez, l'histoire des songes avec d'abord les étoiles et puis les gerbes de blé qui s'inclinent devant l'étoile et la gerbe de blé de Joseph. Voilà, il leur raconte comme ça naïvement. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, ils s'inclinaient tous devant ma gerbe de blé, devant mon étoile. Voilà, c'est comme ça. Alors évidemment, ils ne sont pas très contents, ils le prennent très mal et ils décident de s'en débarrasser. Hein, ils s'en débarrassent au sens propre, puisqu'ils le vendent comme esclave à des marchands amalécites qui l'emmènent en Égypte. Alors, vous vous souvenez, il y a 2 ans, je vous avais dit, à un moment, c'est des amalécites, à un autre moment, c'est des madianites. Hein, on se souvient qu'en fait, ces textes souvent sont la combinaison de 2 récits qui ont été mis ensemble. Hein. Madianites ou amalécites, bref, des marchands itinérants. Joseph est donc vendu en Égypte. Il parvient rapidement à trouver une place élevée chez son maître, Potiphar, hein, un nom égyptien. et donc il s'en sort assez bien, c'est déjà annonciateur de la suite de son histoire, mais il y a cet épisode malheureux où la femme de Potiphar essaye de le séduire, il refuse de se laisser entraîner hein, dans une action mauvaise, et elle l'accuse injustement hein, de cette agression qu'il n'a pas voulu commettre, et il se fait mettre en prison. Là, quand il est en prison, il se fait remarquer par sa capacité d'interpréter les songes. L'histoire du boulanger et de l'échanson, hein, vous vous souvenez pour ceux qui l'ont relu, la réputation de Joseph, qui arrive à interpréter ses songes, arrive à Pharaon, et Pharaon fait appel à lui quand lui-même a ce songe avec les vaches grasses et les vaches maigres, hein, 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Joseph donne l'interprétation, il s'agit de 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de disette, il faut agir en conséquence. Voilà, il parle avec sagesse. Et puis, alors on n'a pas le temps ce soir de reprendre dans le détail l'histoire de Joseph, mais quand même un élément important pour la suite des explications que je vais essayer de vous donner, Joseph avance très prudemment, il n'impose pas son point de vue, et voilà, vous prenez si vous voulez, je n'impose pas, et on va, il va inspirer confiance, et on va lui donner la responsabilité de la gestion de tout le pays, il va devenir Premier ministre. Voilà. C'est dans cette situation que la famine annoncée par les rêves de Pharaon arrive et que ses frères arrivent de la terre de Canaan en Égypte. Il faut bien se rendre compte que nous on a dans la tête Exode 40 ans, donc Égypte et terre de Canaan, c'est-à-dire Israël et Palestine, c'est très éloigné, en fait c'est très proche, hein, c'est vraiment très très proche. Et l'Égypte, c'est un grenier à blé. Vous savez que c'était le grenier à blé des Romains, c'est le grenier à blé pendant toute l'Antiquité. Toute la vallée du Nil est extrêmement fertile. Donc, naturellement, les populations affamées vont vers l'Égypte. C'est lui, comme c'est le Premier ministre, c'est lui qui commande toutes les opérations. Il les accueille, mais ils ne le reconnaissent pas. Il profite de cette situation pour leur faire prendre conscience du mal qu'ils lui ont fait, parce que lui, il les a reconnus. Et il se souvient de ce qui s'est passé. Au terme de ce travail de prise de conscience, un pardon va être possible et il se fait reconnaître de ses frères hein, et tous se retrouvent, les frères se retrouvent entre eux. Voilà. L'histoire se termine par la venue de Jacob, hein, le père en Égypte, figure évidemment centrale également, et l'installation dans le pays. Une installation qui prendra fin 430 ans plus tard avec la sortie d'Égypte derrière Moïse. En attendant, Joseph donne la conclusion en donnant la signification des événements. Hein, votre dessein de me faire du mal, Dieu l'a tourné en dessein pour le bien. J'ai traduit un peu littéralement hein, par rapport à la traduction plus coulante que l'on a dans la liturgie. Hein, le mal que vous aviez dessein de faire, Dieu l'a transformé en bien. Voilà, mais le dessein pour le bien. Votre dessein de me faire du mal, Dieu l'a tourné en dessein pour le bien. Là, on a une expression de toute l'œuvre rédemptrice et finalement de la providence de Dieu qui mène les événements vers une rédemption. Alors, regardons de plus près le personnage de Joseph. Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les figures. Les figures, ce sont des personnes. Avec leurs actions et aussi leur personnalité. L'histoire dramatique de Joseph, c'est l'histoire d'une fraternité blessée et sauvée. Mais d'abord, une fraternité blessée. Cette histoire s'inscrit dans une trame qui est bien visible dans la Bible. La fraternité blessée, ça commence dès le début. Les premières conséquences du péché d'Adam et Ève, qui se détournent de Dieu, donc de leur créateur, on se souvient, c'est la peur de l'un vis-à-vis de l'autre, la convoitise et la violence. C'est très très intéressant de voir comment quand on se détourne de celui qui est notre Créateur, qui se révèle comme notre Père, nous ne savons plus qui nous sommes. Nous sommes perdus. Hein. Nous sommes perdus. La fameuse question de Dieu à Adam, hein, c'est une question métaphysique, hein, très profonde. Hein. Adam, où es-tu ? Saint Augustin répond, il est au pays de la dissemblance, là où l'homme a perdu la ressemblance. L'homme ne sait plus qui il est. Son regard devient opaque. Il ne reconnaît plus sa femme. La femme ne reconnaît plus l'homme. Ils ont peur l'un de l'autre. Ils se cachent. Voilà. C'est quelque chose de très, très, très impressionnant de voir comment les conséquences du péché rejoignent une expérience très concrète que nous faisons. On voit que la Bible n'est pas du tout dans le mythe. Hein. Elle touche une histoire tout à fait réelle que nous éprouvons. Alors, le rapport homme et femme est décrit dans le livre de la Genèse, mais ensuite, ils auront deux fils, Caïn et Abel, et là, il s'agit du rapport entre deux frères. La différence entre un homme et une femme, c'est que l'un et l'autre, les différences qui les caractérisent, hein, la sexualité, ça veut dire la prise en compte de la différence, deux frères, ils sont censés avoir une espèce de ressemblance mutuelle. Donc la confrontation va venir, ou peut venir assez rapidement. Et c'est ce qui se passe. Jalousie de l'un vis-à-vis de l'autre. L'autre est vu comme un rival. Eh bien, Caïn va tuer Abel. Voilà. La jalousie est fratricide. Elle conduit au meurtre. Ces rapports difficiles entre frères, on va le retrouver dans bien d'autres figures. Hein. Pensons à Ésaü et Jacob. Hein. Ésaü qui se fait rouler dans la farine par son frère qui est un menteur, qui est un homme tordu, hein, comme va dire Ésaü. Hein. Jacob, le talon, le tordu. Hein. Et Ésaü tombe quand il se fait voler la bénédiction, veut tuer son frère. Donc là aussi, la mort qui est au bout de cette jalousie et puis cette destruction des liens entre frères. On peut évoquer les rapports entre Ismaël et Isaac, hein, pour qui aînesse et légitimité entrent en conflit. Hein. Alors ce n'est pas la même violence, mais on sent que les rapports sont difficiles. Voilà. Et on peut continuer comme ça. Ce serait une grille de lecture, par exemple, dans les rapports entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, qui sont deux royaumes frères et qui s'entretuent, qui se font la guerre, hein, et le désir des prophètes de les voir enfin réunis. Hein. Et on peut dire que l'aboutissement de cette histoire, hein, eh bien, c'est le Nouveau Testament, comme nous allons le voir tout à l'heure, hein, je pense particulièrement à l'histoire du fils prodigue. Hein. En réalité, on devrait dire le père prodigue, parce que c'est le père qui est prodigue en miséricorde. Hein, je ne sais pas si vous êtes posé la question, pourquoi on dit le fils prodigue ? En fait, il est prodigue parce qu'il laisse couler son argent. Mais la pointe de la parabole, c'est qu'il y a deux frères et qu'il y a une jalousie de l'un vis-à-vis de l'autre. Hein. Donc, ce problème de la jalousie entre frères, qui est caractéristique des relations humaine blessée par le péché, eh bien cela se retrouve et se résout dans l'histoire, dans ce récit, hein, Luc chapitre 15, qui est comme une sorte de résumé de l'histoire du salut. Joseph est un homme juste et innocent. La personne de Joseph, c'est une personne qui est très intéressante. On s'en tient à ce que dit le récit. Hein, on ne fait pas forcément de la psychologie, mais on essaye de voir la fonction de Joseph dans une histoire, la place de Joseph dans une histoire. Et dans cette histoire, Joseph se montre juste et innocent. Bien sûr, il a sa part dans la dispute qu'il y a eu entre frères. Une naïveté d'enfant, mais quelquefois on sait qu'un enfant, un peu inconscient, va mettre la pagaille quand il ne s'y attendait pas forcément. Il est étonné de la réaction de ses frères et sœurs. Une naïveté qui le rend en partie coupable. Ma gerbe se dressa et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Ah ben c'est curieux, hein, ça fait quand même avec mon petit manteau, pendant que les frères sont depuis 6 heures du matin à garder les moutons, ils sont partis loin et tout, il était avec son papa, il a pris son petit déjeuner, il a pris ses chocs à pic, etc. Hein, et papa dit, allez, va rejoindre tes frères. Alors il part avec son beau manteau, hein, il a son beau manteau avec lui. Quelle idée d'aller avec son beau manteau alors qu'ils vont garder les moutons. Enfin, c'est pas. Mais il est content. Mais vous avez le petit garçon qui a eu son jouet à Noël, sa grosse grue, machin. Il va se promener avec alors que c'est vraiment pas le lieu. Quoi. Enfin, c'est voilà. Donc tout ça, c'est plein de vérité. Mais voilà, on peut dire une sorte d'inconscience, de naïveté. Hein. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne cultive aucune arrière-pensée de domination. Quand il raconte ses histoires, on ne dit pas par derrière que c'est ça qu'il a en tête. Or, c'est ça que ses frères comprennent. Hein. À deux reprises, ils disent « Est-ce que tu penses que tu vas dominer sur nous ?» Vous voyez comment c'est tout de suite interprété. La Bible, c'est bourré, je vous l'avais dit, surtout en lisant le livre de la Genèse, c'est tout ce qu'il faut pour des psychanalystes et puis pour nous-mêmes, pour relire notre histoire. Hein. Pour relire notre histoire. Hein. Ce que nous pensons sur ce que les autres pensent. Je suis impressionné de la masse d'imagination qu'il y a. Si on matérialisait l'imagination qu'il y a dans la tête de toute l'humanité, je pensais que tu pensais cela, j'imaginais que, etc. Je pense que la Terre, elle s'écraserait, hein, sous le poids de tout ce que... Voilà. Et c'est la cause de beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits. Hein, voilà. Et c'est ce qui se passe. Il n'empêche qu'il ne cultive aucune arrière-pensée de domination. Et la vengeance de ses frères paraît disproportionnée. Il connaît des épreuves, pourtant jamais il ne se plaint. Dans le récit, à aucun moment on ne le voit se plaindre. Au contraire, il sait utiliser intelligemment les épreuves pour chercher une issue, là où on serait tenté de se révolter ou de tomber dans la tristesse. On le voit avec le boulanger et les chansons de Pharaon, hein, qui sont complètement accablés quand ils sont en prison, hein, et quand ils ont leurs songes eux-mêmes, hein, ils sont complètement bloqués. Et lui, eh bien, il essaye d'aller plus loin, de se dire il y a quelque chose à trouver. Sa sagesse lui permet d'aller plus loin. Hein, Joseph figure du sage. Hein, et c'est avec sa sagesse qu'il devient premier ministre de Pharaon. Cette capacité de tirer parti des situations, hein, vous voyez, tout ça, ça le prépare à la rencontre avec ses frères, quand ceux-ci l'auront rejoint en Égypte. Vous voyez, pour l'instant, il n'imagine pas que ses frères vont arriver, mais tout le bien qu'il fait en aidant les deux autres prisonniers, en essayant de se sortir des situations, ce bien lui sera utile. Voilà. Voilà la sagesse de Joseph. Dans la Bible, la sagesse, c'est à la fois une réalité spirituelle, sagesse de Dieu qui se déploie dans la création, mais elle a aussi une dimension pratique. La sagesse, c'est ce qu'on enseigne au roi pour qu'il puisse gouverner. C'est le savoir-faire de l'artisan qui montre comment se saisir de la réalité. Joseph, grâce à sa sagesse, va pouvoir... Lui qui a fait cet itinéraire personnel pour essayer de comprendre la situation, eh bien, il va aider ses frères à leur tour à faire eux aussi un itinéraire pour comprendre la situation, faire un chemin de vérité pour que le pardon soit possible. Sans cet itinéraire de vérité, le pardon aurait été insupportable pour ses frères. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Cette sagesse de Joseph, il va finalement en faire bénéficier ses frères. Et la sagesse introduit, elle introduit à la charité, elle introduit à l'amour. Si ses frères ne font pas cet itinéraire, ce chemin de vérité, il aurait pu leur pardonner, mais en les enfermant dans leurs fautes passées. Au contraire, il va leur donner le moyen de reconnaître le mal qu'ils ont commis en gardant la tête haute et ainsi de retisser les liens de fraternité que la jalousie avait tués. Et de fait, on voit que la fraternité qui apparaît à la fin du récit, est plus profonde que celle qui existait avant le début du drame. On voit les frères heureux d'être réunis et se parler avec beaucoup de franchise, d'amitié, ce qui n'était pas le cas au début. Mais pour ça, il aura fallu ce chemin de vérité qu'ils accomplissent, alors que raconte le récit de façon très 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 intelligente, Joseph arrive à conduire les événements, et ça, c'est véritablement sa sagesse. Vous voyez, lui-même a essayé, face aux situations difficiles, d'avoir l'attitude la plus juste, la plus intelligente, eh bien, il va aider ses frères à ne pas buter sur une vérité qui leur échappe, mais au contraire, à faire cette vérité à l'intérieur de leur cœur. Un dernier point, voilà, ce deuxième point sur la question de la sagesse, la vérité et le pardon, c'est un point qui est tout à fait central, qui est tout à fait central. Troisième point, c'est que le rapport entre le récit et l'action de Dieu qui se cache derrière les événements. On est frappé par le nombre de détails narratifs présents dans le récit. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ont de l'importance, qui nous disent que c'est à travers une histoire très concrète, à hauteur d'homme, que les événements se déroulent. Je dirais que c'est vrai dans toute la Bible, mais la manière dont le récit, l'histoire de Joseph est construit, nous dit que c'est à travers des circonstances extrêmement précises que tout va se jouer. Hein, quelquefois, c'est un petit détail. Joseph va y être attentif et c'est comme ça qu'il va avancer. Hein. Eh bien, avec cette attention, cette sagesse, il va être capable de discerner l'action de Dieu qui est invisible au premier abord. Vous avez des récits dans la Bible où, de façon très claire, on voit Dieu qui intervient dès le départ. Hein, l'histoire de Moïse. Alors là, y a Dieu qui dit à Moïse, voilà, je t'envoie, j'ai pas envie d'y aller, tu vas y aller quand même, bon, ça va, mais après, il y a le bâton qui est changé en serpent, puis après, il y a l'eau qui devient du sang. Donc, on voit qu'il y a l'action de Dieu, les plaies d'Égypte. Et puis après, il y a la sortie d'Égypte, et on dit que Dieu agit à main forte et à bras étendus. Hein. Dieu se présente comme un guerrier. Donc, typiquement, le livre de l'Exode, on voit Dieu qui agit presque comme un personnage, presque visible. Dans l'histoire de Joseph, pas du tout. Hein, l'impression que tout se joue à hauteur d'homme, uniquement à hauteur d'homme. Pour le lecteur que nous sommes, mais pas pour Joseph. Joseph qui est au cœur des événements et qui a cette sagesse, est capable de discerner l'action de Dieu, qui est invisible au premier abord. Il y a notamment deux moments en particulier au chapitre 39 hein, où il est dit que Dieu assista Joseph, hein, Dieu intervint, et Joseph lui-même qui reconnaît que c'est Dieu qui donne l'intelligence pour comprendre les songes. Et les songes ont un rôle très important. Hein. Un songe, ça permet de prendre recul par rapport à la réalité, hein, par rapport aux événements, et ça permet de décrypter les événements. Joseph voit ce que les autres ne voient pas, l'action de Dieu qui secrètement conduit les événements vers une rédemption. Eh bien, voyez, ce que je vous disais sur la sagesse tout à l'heure, ça va être la même chose avec les songes. Il y a la sagesse de Joseph, il y a sa capacité de lire les songes. Lui-même fait cet itinéraire et il permet aux autres d'entrer dans cette intelligence. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit quand on fait un peu attention aux événements? Eh bien, on voit que Dieu agit. Hein. Et c'est la leçon que Joseph va tirer de toute cette histoire. C'est les mêmes événements, hein, je fais une petite parenthèse parce que là, pour une fois, je ne suis pas trop en retard. Les mêmes événements sur lesquels nous butons, surtout si c'est des événements malheureux, il y a un positionnement à avoir. Là, il y a une question de foi qui se joue. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous nous mettons en colère? Est-ce que nous ne sommes pas contents? Est-ce que vous dites, il n'y a rien de plus à dire, donc moi je veux des trucs pratiques, donc je passe à autre chose? Ou est-ce que je me dis, il y a quelque chose à chercher, il y a une cohérence que j'essaye de découvrir petit à petit. Et Joseph est dans cette troisième attitude de dire, il y a une cohérence, il y a une vérité, et j'essaye de la deviner, de la comprendre. Vous voyez ? Les mêmes événements. Des événements sur lesquels on bute. Il y a un exemple que je vous ai déjà donné plus d'une fois, c'est dans les cigares de Pharaon. Quand Tintin et je ne sais pas qui est avec lui, sur le capitaine Haddock, sont dans le désert et ils butent sur un morceau de caillou. Ils sont sur le point de tomber. Genre, le caillou, on dit qu'est-ce que c'est que ce caillou ici, quoi. Il n'y a rien à faire ici. Et puis on s'énerve et puis on est à la recherche de ce qu'on cherche, mais on n'a pas compris qu'il y avait un événement sur lequel on butait, mais qui pouvait aussi être un indice. Et il y a Tintin qui dit, bon, on va essayer de regarder un peu plus loin, il ouvre, il trouve une porte, il entre, il aura la solution. Ouais. Le même objet. Autre exemple, ça tombe bien, c'est également en Égypte, dans le monde des pyramides, c'est Astérix et Cléopâtre. Je crois que c'est ça. Quand ils sont perdus dans le labyrinthe, voilà, y a Idéfix qui est là, et Obélix a juste oublié qu'Idéfix avait disparu, il était à l'extérieur. Et Astérix, qui a gardé la mémoire, il voit qu'il est fixe, il ne devrait pas être là. S'il est là, c'est qu'on va peut-être retrouver la sortie. Ouais. Donc, alors, ce que je vous dis là, c'est très basique, hein, c'est de la... Mais ça montre bien, et la Bible joue beaucoup dessus, les mêmes événements, qu'est-ce que nous en faisons ? Et dans notre existence, dans notre vie spirituelle, c'est ça aussi. Il y a des choses qui nous révoltent, des choses qui nous... Il y a des choses devant lesquelles on est indifférente. Joseph nous apprend à voir comment Dieu conduit les événements. Comment Dieu conduit les événements. Hein, parce que, ultimement, c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein, c'est de voir comment Dieu mène, finalement, une histoire difficile vers une rédemption. Alors, précisément, la rédemption. La rédemption de la fraternité. Saint Matthieu se réfère à Joseph le patriarche, hein, c'est une référence, je la mentionne comme ça. Saint Matthieu se réfère à Joseph le patriarche au début de son évangile. Vous vous souvenez, hein, dans la généalogie de Jésus, il est dit Joseph, Jacob engendra Joseph, hein, l'époux de Marie. Voilà, donc c'est intéressant de retrouver un Joseph qui engendre Jacob qui engendre Joseph. Hein, c'est dans l'évangile. On peut faire un autre rapprochement, les songes, hein, de Joseph, donc l'époux de Marie, les songes qui lui permettent de comprendre ce qu'il faut faire. En plus, comme par hasard, les songes de Joseph vont le conduire en Égypte. Voilà. Donc il y a un certain nombre de rapprochements. Mais évidemment, le rapprochement, c'est surtout avec Jésus. Hein. C'est surtout avec Jésus que le rapport doit être fait. Trois moments, hein, dans ce rapprochement entre Joseph et Jésus. Tout d'abord, Jésus en quête de ses frères. Jésus qui va vers ses frères. L'histoire de Joseph, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire d'une fraternité perdue et retrouvée. Elle commence, le drame va commencer, alors que Joseph, envoyé par son père, part en quête de ses frères. Il y a cette expression, il part en quête de ses frères. Et de fait, c'est parce que son père lui a demandé de les rejoindre. Hein, Israël dit à Joseph, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Vous avez vu à travers ces expressions, hein, surtout la deuxième, hein, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici, qu'on pourrait l'appliquer simplement au Verbe de Dieu à qui le Père demande d'aller au milieu des hommes. Et de fait, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 7, hein, il y a bien cette parole « me voici » qui est appliquée à Jésus, qui est tirée d'un psaume, hein, au moment d'envoyer le Christ dans le monde. Hein, voilà, le Père l'envoie, le Christ dit « me voici ». Et partir en quête de ses frères, c'est les pères de l'Église y ont vu l'annonce de l'incarnation. Dieu envoie son fils au milieu de ses frères. Et c'est vrai que ça, c'est un point de théologie qui est très important, de lecture biblique, mais de théologie. Jésus a voulu avoir des frères. Jésus a voulu avoir des frères. Vous voyez, mais c'est quand même pas très, Père de l'éprouvier, pas très bien de dire ça, hein. Et Jésus, c'est quand même le Seigneur, c'est plutôt le rôle du Père, c'est le rôle du chef, c'est le rôle du pasteur. Hein. Puis souvent, on a fait un tel usage de la fraternité, on est tous frères, que on dit, bah, faire un Jésus horizontal, on n'aime pas trop, quoi. Hein. Eh ben si. Eh ben, je maintiens ma position. Voilà. Hein. C'est Jésus lui-même qui a voulu se mettre au rang des hommes et qui a voulu avoir une multitude de frères. Hein. Hébreux, chapitre 2, verset 17. Hein. En s'incarnant, le Fils a voulu se rendre solidaire de tous les hommes. Il a voulu devenir en tout semblable à ses frères, hein, pour devenir grand prêtre dans leur rapport avec Dieu. Hein, vous voyez, ce que nous montre l'Épître aux Hébreux, c'est que, en se faisant homme, le Christ participe à notre vie. Il se met à notre niveau. C'est ce que nous avons célébré avec le baptême. Hein, cette année, ce n'était pas Saint Matthieu, mais quand nous aurons Saint Matthieu, Jean-Baptiste dira à Jésus, « Pourquoi tu viens recevoir le baptême ?» Et Jésus répond, « Il convient d'accomplir toute justice, c'est-à-dire d'accomplir le vouloir du Père. C'est que je suis au rang des hommes pour, d'une certaine manière, me mettre à leur place et leur ouvrir le chemin qui conduit vers le Père. » Mais Jésus, comme fils, vient nous réapprendre la relation filiale. Hein. Dieu ne nous sauve pas extérieurement, mais en nous rejoignant jusqu'à partager notre condition, hein, jusqu'à entrer dans le jeu de relations fraternelles qui sont tellement blessées et qui ont besoin d'être sauvées. Et c'est pourquoi Jésus, au long de l'Évangile, se présente comme frère. Alors tout d'abord, il a eu des frères, ça, il en est question dans l'Évangile, hein, Marc chapitre 6 verset 3, hein, « Ses frères ne sont-ils pas chez nous ?» Hein, vous vous souvenez, quand il est à la synagogue de Nazareth, mais, alors on sait bien, mais je pense que ça ne pose pas de difficulté, hein, selon la culture orientale, les frères, ça veut dire la parenté, hein, un peu comme aujourd'hui, pour ceux qui étaient dans le 19e arrondissement, je ne sais pas s'il y en a de la paroisse des buts de Chaumont, mais en Afrique, très souvent, les enfants, quand ils voient une dame, ils disent « maman », parce qu'une dame, c'est une maman. Et on a une vision en Afrique de la famille beaucoup plus élargie que chez nous, hein, que je trouve tout à fait intéressante et astucieuse. Hein, chez nous, on est très individualiste. Hein, on voit ça pendant les vacances, quand il y a les frères et sœurs qui se retrouvent avec leurs enfants propres. S'il y a une maman qui dit un truc à son neveu, ah, « tu as dit quoi, mon fils ? C'est moi qui m'en occupe. » C'est très occidental, c'est très européen, ça. Hein, je pense qu'en Afrique, une maman, c'est une maman, elle a le droit de parler aux tous enfants, et c'est très bien comme ça, on reconnaît comme une maman. Et quand dans la Bible, on dit les frères de Jésus, c'est la même chose. C'est, les frères, ça veut dire, on est dans un village, on est les cousins, et il y a une solidarité. Hein, quelque chose qui, ça ne pose pas de problème pour le monde oriental, ça ne pose pas de problème quand on lit la Bible, ça nous en pose à nous, et donc nous inventons que Jésus aurait eu des frères. Non, hein, il y a beaucoup d'indices, notamment au pied de la croix, quand Saint Jean dit à Marie, « Voici ton fils ». Ça n'aurait pas de sens si Jésus avait eu des frères selon la chair. Voilà. Mais surtout, hein, ce qui est important, c'est que Jésus va inaugurer une nouvelle forme de fraternité, hein, non plus selon la chair, mais selon les liens de la foi. Quand on dit à Jésus, il y a tes frères qui sont là, donc tes cousins, t'es les habitants de Nazareth, hein, tes proches de Nazareth qui sont là, et Jésus répond de façon un peu rude, mais très profonde, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » Une fraternité qui est ouverte à tous ceux qui veulent devenir ses disciples. Donc, mais Jésus a commencé d'abord par vivre cette fraternité humaine au niveau, dans la vie de son village, mais il vient établir des liens, cette fois-ci, hein, qui sont selon la foi. Donc ça, il faut vraiment avoir ça présent à l'esprit. Jésus se présente comme un frère et il veut établir entre nous des liens de fraternité. Ce qui ne retire rien au fait que le même Jésus est notre Seigneur et qu'il exerce une autorité. Hein. Mais c'est ça qui est très bouleversant dans l'Évangile, c'est que celui qui est notre Seigneur et qui a l'autorité, en même temps, s'est mis au rang des hommes pécheurs que nous sommes. C'est ce même paradoxe, hein, Jésus qui est à la fois le pasteur et en même temps l'agneau. Hein, il s'est identifié à l'agneau et en même temps il est le pasteur. Il est le frère et en même temps il est le Seigneur. Voilà. Mais la dimension de frère est fondamentale parce que elle est pour nous, elle nous montre que Jésus nous réapprend le lien avec le Père. Voilà, Jésus en quête de ses frères. Vous voyez, cette expression que les pères de l'Église ont reprise pour décrire l'incarnation, va à la recherche de tes frères. Eh bien, Jésus, c'est le Verbe qui est allé à la recherche de ses frères. Deuxième point, Jésus, c'est le frère rejeté. Les frères que Jésus a voulu se donner ne l'ont pas accueilli. On se souvient de la parole de saint Jean au chapitre 1 de l'Évangile. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Bien qu'il partageât leurs conditions, hein, il n'a pas été reconnu pour ce qu'il était. Et c'est ce qui s'est passé avec les frères de Joseph. Hein, quand il est arrivé avec ses petits songes qu'il raconte comme ça naïvement, sans se rendre compte de ce qu'il disait, les frères ont cette réaction. Ils disent « Est-ce que tu t'imagines que tu vas régner sur nous ?» hein ? Dispute frères et sœurs pendant les vacances, comme ça, est-ce que c'est toi qui vas c'est normal, enfin, la volonté du pouvoir. Le petit Nicolas, vous savez, a trouvé une solution. Et il y a cinq garçons qui sont ensemble et on ne sait pas qui sera le chef. Parce qu'évidemment, chacun veut être le chef. Et la solution du petit Nicolas est assez astucieuse. Il dit, moi, je propose qu'on fasse cinq équipes différentes et chacun sera responsable d'une équipe. Et on fait tous partie des cinq équipes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, tous les cinq, ils sont à la fois chefs et participants de... Voilà, bon, ça ne résout pas le problème. Accepter qu'il y ait quelqu'un qui soit le chef, les frères de Joseph, eux, ils ne veulent pas. Et donc, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Expression que l'on retrouve, ça vous dit peut-être quelque chose, dans la parabole des mines. Des hommes qui ne veulent pas que le roi règne sur eux. Et donc, ils vont le rejeter. Donc, il y a une préfiguration. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Le rejet va culminer quand il décide de le mettre à mort. On a ça chez Joseph, comme on l'aura avec la passion de Jésus. Les frères de Joseph décident de s'en débarrasser. Jésus est vendu pour 30 deniers par l'un des apôtres, hein, comme Joseph qui va être vendu pour 20 sicles par ses frères comme esclaves. Jésus rejeté, c'est Jésus qui subit des humiliations qui évoquent celles subies par Joseph. Alors en fait, quand on lit le texte attentivement, il y a des quantités de choses qui arrivent à Joseph et qu'on retrouve avec Jésus. C'est vraiment... relisez l'histoire de Joseph en vous disant, tiens, est-ce que ça s'applique à Jésus ? Accusé injustement d'un crime qu'il n'a pas commis, comme Joseph accusé par la femme de Potiphar. Dépouillé de ses vêtements, ses frères lui retirent ses vêtements, le fameux manteau. Ils vont mettre du sang de bouc pour faire croire au père que Joseph s'est fait dévorer. C'est une cruauté incroyable. Dans la Bible, le vêtement, c'est la personne. Et puis, la femme de Potiphar qui lui arrache son vêtement également. Donc, Jésus dépouillé de ses vêtements. Tandis que Jésus agonise sur la croix, on raconte que les soldats s'assoient à côté de lui pour le garder. De même que les frères de Joseph s'assoient quand il est dans le puits, en train d'attendre qu'il soit vendu. Voilà. Des préfigurations de la passion qui ne sont pas que matérielles, qu'on trouve aussi dans l'attitude de Joseph dans les souffrances. Joseph ne se plaint pas quand il est l'objet de la violence de ses frères, quand il est injustement accusé, quand il est emprisonné. On retrouve des personnages de l'Ancien Testament qui auront la même attitude, David, Jérémie, le serviteur souffrant, qui par leur abnégation annoncent eux aussi Jésus en sa passion. Mais outre cette abnégation de Joseph, qui annonce celle de Jésus, ce qui est le plus caractéristique, le plus marquant, c'est c'est sa sagesse hein, qui intervient dans son épreuve. Vous avez remarqué que les évangélistes, quand ils rapportent les événements de la Passion, ne focalisent pas l'attention du lecteur sur l'horreur des souffrances subies par le Christ, mais sur une vérité plus profonde, hein, sur le salut qui est en train de s'accomplir. C'est pour ça que je suis un petit peu critique vis-à-vis de certains films, dont un auquel je pense spécialement, hein, qui insiste bien, qui met bien la caméra sur là où il y a du sang qui gicle, où il y a des coups de fouet, où il y a de la violence. Alors, bien sûr, il y a une violence incroyable, et Jésus en a horriblement souffert, c'est évident. Hein. Les souffrances de Jésus dans sa passion, elles sont réelles. Il y a toute une époque de l'Église, à la fin du XVe siècle, on a beaucoup insisté sur les souffrances de Jésus, les instruments de la Passion. Et il est bon de le faire, et il faut le faire, il faut l'intégrer dans notre spiritualité. Mais il est frappant de voir que chez les évangélistes, ce n'est pas ça qui est la chose importante. Et Jésus lui-même demande aux femmes qui pleurent sur ses souffrances. Il dit, il y a quelque chose de plus grave encore que les souffrances que je subis. C'est le mal dans lequel l'humanité est plongée et dont elle ne se rend pas compte. Vous voyez ? Si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ? Les souffrances de Jésus sont évidemment épouvantables et quelque chose d'encore plus épouvantable et qui fait sûrement davantage souffrir le Christ hein, que tous les coups de fouet, c'est les cœurs qui ne veulent pas se convertir. Et les cœurs qui s'enferment, qui se damnent. C'est ça la grande souffrance de Jésus. Et Jésus veut aider ses disciples et les saintes femmes qui sont là à s'en rendre compte. Si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ? C'est une parole de sagesse. De réaliser où se trouve le mal le plus grave. Jésus s'avance librement dans sa passion pour accomplir l'œuvre que le Père lui a confiée et sans revenir sur lui-même quand il souffre. Dans notre manière de lire la passion de Jésus, je pense que la figure de Joseph nous introduit, nous aide à comprendre comment essayer de saisir les événements. Jésus vit sa passion au bénéfice de ses frères, de ceux dont il veut faire ses frères. La mort de Jésus sur la croix opère un dévoilement. Comme je vous disais tout à l'heure, Joseph conduit ses frères à reconnaître le mal qu'ils ont fait. Eh bien, Jésus fait pareil. Il va conduire ses frères et même ses bourreaux à réaliser le mal qu'ils ont fait. Il y a comme un dévoilement. L'homme voit où mène sa jalousie. Quand on voit Jésus sur la croix, on voit comme démasqué le mal qui habite notre cœur. Voilà ce que produit la jalousie. Voilà ce que produit le mensonge. Quand on voit Jésus sur la croix, c'est l'aboutissement d'un cœur qui s'est détourné de Dieu. Joseph avait conduit ses frères à reconnaître le mal qu'ils avaient commis et les conséquences tragiques de ce mal, puisqu'il a été quasiment réduit à la mort, réduit en esclavage. Jésus lui-même, il va être mis à mort parmi des brigands. Avec Jésus s'accomplit vraiment la parole prononcée par Joseph, cette parole qui est la pointe de toute l'histoire de Joseph. Votre dessein de me faire du mal, Dieu l'a tourné en dessein pour le bien. C'est véritablement la rédemption. À travers ces événements, vous avez vu que Dieu poursuivait un but et il l'a accompli par la mort et la résurrection de Jésus. Et alors ça, c'est extraordinaire parce que on voit que cette situation d'humiliation de Jésus vendu, comme Joseph a été vendu, que Jésus va retourner avec cette sagesse avec ce don de lui-même, avec le désir de faire bénéficier son histoire à tous ses frères, eh bien, c'est véritablement le cœur de la rédemption, ce renversement de situation. Hein. Jésus fait de sa victoire une victoire pour le bénéfice de tous. Une victoire pour le bénéfice de tous. C'est pas que la personne de Jésus, c'est le sens de sa mission. Alors, c'est précisément le troisième point, troisième et dernier point, Jésus qui retrouve ses frères, l'idée de retrouver ses frères qui étaient perdus. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne condamne pas ceux qui l'ont rejeté. Il aurait pu, il est le juge, il y a des paraboles où il se présente comme le juge, mais jusqu'à sa résurrection, le désir de Jésus, c'est d'associer les hommes pécheurs à sa victoire, comme Joseph l'a fait avec ses frères. Hein, vous devinez dans l'histoire de Joseph qu'il y a un moment, il aurait pu leur faire payer, simplement leur faire payer. Comme je vous le disais aussi, il aurait pu leur pardonner, mais en disant, de toute façon, vous avez fait du mal, voilà, ok, hein, maintenant. Non, il va essayer de leur faire revenir sur ce chemin de vérité pour qu'ils soient pleinement participants de ce pardon. Ça suppose un changement de regard, ça suppose une conversion. Et c'est pour ça que l'histoire de Joseph prend du temps. Et c'est pour ça que l'histoire du salut prend du temps. Parce que notre conversion, ça prend du temps. Et Dieu veut nous donner le temps de nous convertir. La dimension du temps est fondamentale dans la foi chrétienne. Il y a besoin d'un temps pour convertir. La question du regard, comme je vous disais tout à l'heure, on s'imagine des choses. Notre regard est obscurci. Notre regard est obscurci. C'est le premier résultat du péché. Le regard de Adam et Ève devient opaque. Ce thème traité de façon un peu étonnante. L'homme et la femme étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Donc qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient la splendeur de l'un et de l'autre, ils voient une personne dans sa splendeur. Trois versets plus loin, juste après le péché, or ils virent qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que je ne vois plus l'autre, mais je vois la nudité. Ce n'est que ça. Le regard devient opaque. Je ne te vois plus dans ton unicité, donc le regard chaste, ça devient un regard captateur, un regard qui possède et donc qui a peur. C'est la Bible, en quelques mots, a une vision extrêmement fine sur ce regard, le regard que nous avons sur les autres, sur nous-mêmes, sur Dieu, qui nous empêche de voir l'action de Dieu. Peut-être la grâce de Joseph, c'est lui d'avoir ce regard. Tu es capable de reconnaître l'action de Dieu. Jésus vient guérir notre regard, comme Joseph a aidé ses frères à changer leur regard, à voir paisiblement le mal qu'ils ont fait sans se sentir condamnés, mais en voyant qu'ils ont fait du mal. C'est caractéristique, à la fin de l'évangile de Saint Jean, Marie-Madeleine cherche Jésus au tombeau. Il n'y est pas. Mais elle est tellement captivée par son idée, que cette volonté de saisir Jésus, qu'elle ne peut pas imaginer qu'il soit ressuscité alors qu'il l'avait annoncé. Et quand elle voit Jésus, elle pense que c'est le jardinier. Voilà. Et donc, le regard, on voit que le regard extérieur, marqué par le péché, est insuffisant. Il faut une guérison, un retournement intérieur. Marie, Rabouini, voilà, ça y est, elle l'a reconnu. Il y a eu ce retournement intérieur. Voilà, encore un rapprochement. Ruben, qui s'était lamenté devant la citerne vide, comme Marie devant le tombeau vide, parce qu'on avait retiré Joseph. Voilà. Alors après, il y a un rapprochement, mais qui fonctionne un peu à l'envers. Joseph était allé trouver ses frères pour leur dire que le puits était vide. Marie-Madeleine ira, elle aussi, trouver ses frères pour leur dire que la tombe est vide. Mais cette fois-ci, c'est le contraire de ce qui s'est passé pour Joseph, c'est que là, Jésus est ressuscité. Vous voyez, il y a une sorte de dénouement. Voilà, je termine ce troisième point en reprenant cette parole de Jésus à Marie-Madeleine, qui nous fait penser à la parole de Joseph, de Jacob à son fils. Va vers tes frères, va trouver tes frères. Eh bien, c'est ce que Jésus dit à Marie-Madeleine. Va trouver mes frères. Mais on voit que la rédemption a fonctionné, puisque à ce moment-là, les frères de Jacob avaient perdu un frère. Maintenant, ils le retrouvent. C'est un frère qui est retrouvé. En Jésus ressuscité, c'est la fraternité qui est retrouvée. Vous avez vu, les premiers mots que Jésus dit, c'est « Va trouver mes frères. Va trouver mes frères. » Ceux qui se sont comportés d'une manière qui n'était pas fraternelle, puisque c'était d'une manière meurtrière, « Va trouver mes frères », ça veut dire que maintenant, la fraternité est retrouvée. On peut dire que c'est le « depuis Caïn et Abel », c'est le dénouement de cette histoire douloureuse. Jésus s'est incarné, le Verbe s'est incarné pour avoir une multitude de frères. Eh bien, ces frères, Jésus les a retrouvés. On peut dire d'une certaine manière qu'il les a créés ou recréés. Le dénouement de l'histoire de Joseph, on s'en souvient. « Je suis Joseph, votre frère », cette parole absolument extraordinaire. Qui était précédé par les larmes de Joseph, qui disait il reconnaît ses frères, il se cache pour pleurer. Mais c'est aussi des larmes de joie. C'était pas mes frères, c'était plus mes frères. Ils ont tué la fraternité quand ils ont voulu me vendre et quand ils ont dit à mon père que j'étais mort. Et maintenant ils viennent, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, il se met à pleurer, des frères qui se retrouvent. Après ces luttes tellement violentes qui marquent tellement, 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 tellement de familles dans le monde. Est-ce que des frères pourront se retrouver? Voilà. Et bien Jésus, c'est celui qui, dans l'histoire de l'humanité, est arrivé, qui a dit « Va trouver mes frères ». Désormais, la fraternité va être possible. Et il le montre à ses frères en disant « Je suis Joseph, votre frère ». Vous imaginez l'émotion. Voilà, la joie des fils de Jacob, qui reconnaissent leur frère, qu'ils croyaient mort, c'est la même joie que les disciples qui croyaient que Jésus ne sortirait pas du tombeau. Dans leur joie, ils n'arrivaient pas à croire. Ça, c'est une des paroles les plus extraordinaires. Pour moi, c'est une des preuves de l'historicité des événements. C'est que la joie est là. Mais évidemment, c'est incroyable. Mais la joie montre que Jésus est bien là. Donc, Jésus a vaincu la mort. Conclusion. Jésus assume en sa personne les deux figures. Donc c'est une conclusion qui vaut pour le cours précédent et ce cours-là. Je vous ai dit, c'est deux figures de patriarches qui abordent deux questions qui sont intimement liées, la fraternité et la filiation. Bien sûr, s'il y a une fraternité, c'est qu'il y a d'abord une filiation. Ce que les évêques de France ou l'Église rappellent poliment et gentiment à la République française, qui a eu la bonne idée de reprendre cette idée de fraternité, qui est une idée chrétienne, mais en disant pour qu'il y ait la fraternité, il faut qu'il y ait une paternité. Alors dans un pays, c'est ce qu'on appelle la patrie, l'attachement à la patrie. Patrie, le terme de patrie, c'est lié au père. Donc il ne faut pas couper le lien avec cette forme de paternité politique qu'est la patrie, mais spirituellement, on ne peut comprendre les liens fraternels dans une communauté chrétienne que parce qu'il y a un même Père et que nous disons ensemble le Notre Père. Dire le Notre Père, c'est la prière des frères. Notre Père, c'est ce que vont dire des frères et sœurs ensemble. Ils vont se tourner vers leur Père ensemble. Et bien, dans la messe, quand on dit Notre Père, on est entre frères et sœurs avec Jésus. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. Voilà, même s'il marque une distinction, c'est-à-dire à je vais vers mon Père et votre Père. Nous, c'est notre Père par grâce. Jésus, c'est par nature. Mais il n'empêche que Jésus nous introduit dans sa filiation. Oui. Voilà. Comme Joseph, Jésus a conduit les hommes à faire la vérité dans leur vie et à reconnaître la jalousie et les rivalités qui détruisent les liens fraternels. Le chemin de la vie chrétienne est un chemin de vérité. L'Évangile est un chemin de vérité qui fait la vérité dans notre vie. La lecture de la Bible, ça m'aide à faire la vérité dans ma vie, à nommer le mal, non pas pour me sentir condamné, mais pour voir qu'en nommant le mal, il y a un chemin de rédemption. Ça, c'est toute la finesse de Joseph, et c'est la finesse de Jésus. C'est l'immense délicatesse de Jésus, la charité de Jésus, patience pleine de miséricorde, qui permet que la prise de conscience des péchés ne soit pas pour eux une condamnation, mais un chemin de rédemption. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Comment tourner en bien le mal qui existait. Hein, il faut cette sagesse, il faut cette patience. Et puis, comme Isaac, hein, eh bien, on retrouve Isaac. Jésus a montré le chemin de la parfaite obéissance au Père, hein, qui permet aux hommes de se reconnaître semblablement fils et donc frères les uns des autres. Hein. Il n'y a que le Père, qui peut créer la fraternité. Et c'est précisément parce que Jésus obéit pleinement au Père qu'il peut lui-même établir cette fraternité entre nous. Cette conclusion de la parabole du fils prodigue, c'est véritablement la parole recréatrice du Père qui dit « Ton frère était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Voilà. Il est 5, donc on a mis moins d'une heure, parce qu'on a commencé à 8 ou 9. Donc ça laisse donc les veuves les complices, je pense que c'est dans 3 minutes. Oui, question.
Je me demandais, mon père, est-ce que vous connaissez le nombre de générations qui séparent Joseph, fils de Jacob, de Joseph, père adoptif de Jésus?
Ah ben c'est marqué chez saint Matthieu. Alors c'est quoi? C'est 14 multiplié par 3. Il faut retirer, donc ça fait, voilà, il y a une calculette ici, c'est Ferial, elle va nous faire les calculs. 28, 42, moi il doit y avoir une quarantaine de... Pourquoi?
Non mais ça m'est venu comme ça.
Ah d'accord. Voilà, je ne crois pas que ça influe sur la compréhension de la personne de Jésus. Oui? Oui, je pense comprendre ce que je veux dire, mais je pense que si je puis me permettre, je pense que cette question, qui n'est pas simplement la vôtre, qui est celle que beaucoup de personnes posent aujourd'hui, elle traduit une compréhension, à mon avis, qui n'est pas juste de notre modernité, c'est-à-dire que nous imaginons que nous surplombons l'histoire. En réalité, il y a eu des périodes de l'histoire où il y avait des gens qui avaient une profondeur, une sagesse, une intelligence que nous ne soupçonnons pas. J'ai découvert ça d'un point de vue, pas uniquement une idée, à partir des textes d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle George Steiner, pas du tout un chrétien, c'est quelqu'un d'origine juive, qui est très grand connaisseur du christianisme, et surtout, il s'intéresse aux textes. Il nous montre que des textes grecs qui datent de l'époque d'Homère, donc le 7e siècle avant Jésus-Christ, il y avait une puissance culturelle, enfin intellectuelle, extrêmement profonde, une finesse qu'on a perdue par la suite. On s'imagine qu'on est sur un chemin qui n'arrête pas de monter. Ben non, ça monte et ça descend. Ah, c'est un phénomène dans l'histoire. S'il y a des historiens, si vous allez en Terre Sainte, vous allez, et même si c'est le peuple juif qui est le peuple d'Israël, qui est le peuple, tout le plus grand bien qu'on peut, quand vous allez en Terre Sainte, vous voyez la ville d'Arad, vous voyez qu'il y avait une ville cananéenne gigantesque qui devait être très, très, très élaborée et tout. L'arrivée de Salomon, quelques siècles plus tard, la ville, on tombe dans un niveau culturel beaucoup plus bas. Voyez. Donc il ne faut pas s'imaginer que ceux qui vivaient il y a 2000 ou 3000 ans, c'était des moins que rien. Il y avait au contraire une très grande sagesse. Peut-être, je vais dire une parole un peu anti-moderne, mais vous avez le droit de... Il n'y avait pas les ordinateurs. Et donc on était obligé de tout avoir dans sa tête. On a le droit de ne pas être d'accord. Hein. Mais je pense que la démission... par rapport aux moyens électroniques, en disant tout est dedans, faut y faire très attention.
Mais c'était des villes dans le désert. Arad.
Oui, la ville d'Arad, oui, dans le désert.
Hein. Il peut vivre maintenant une ville dans le désert.
Oui. Il a les techniques de culture, puis des textes, en effet, d'une finesse absolument incroyable.
Je voulais également vous demander, les Hébreux, avant d'être esclaves en Égypte, ils étaient où?
Les Hébreux?
Alors,
l'histoire est un peu difficile à retracer, mais si on garde l'idée que c'était des populations sémites, c'était des pasteurs, ils se sont retrouvés en Égypte, mais ils venaient, voilà, on dit qu'ils venaient du pays de Canaan, ils venaient de, Voilà. Mais c'est une histoire qui n'est pas très facile à traduire. Est-ce qu'il y avait d'autres, questions? Pas de questions cette fois-ci. Eh bien, écoutez. Alors, il y a un sujet que je n'ai pas abordé. On va terminer par là, mais en conclusion, je vous ai dit que la question de la paternité est fondamentale pour retrouver la fraternité. Et c'est sûr que Jacob a aussi un peu sa part de responsabilité. Hein. Comment a-t-il aidé les frères à accueillir le plus jeune? Voilà, c'est des rapports très complexes. Hein. Je vous ai dit des choses de façon... Mais bien sûr, hein, Jacob a aussi son rôle. Voilà, mais avec un itinéraire que lui-même a fait qui n'a pas été facile. Donc voilà, bonne soirée à tous. La prochaine fois, ce sera Moïse. Moïse, figure de Jésus. Alors là, on va s'attaquer à un gros morceau.
Pour un prêt avec moi ?
Avec plaisir.
Ma voiture est un tout petit peu en avant là.
D'accord.
À peine.
D'accord, ça marche. Merci.